Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Justine Moussa Oupondé. Les titres de cette édition à Goma, panique au quartier Mabanga après un bouclage matinal mené par le mouvement AFC 123. Près de 60 jeunes ont été interpellés et des familles sont dans l'angoisse face à ce qui est perçu, selon certains, comme une manœuvre d'enrôlement forcé. La maire adjointe de Lubumbashi, Joyce Tunda, est rappelée à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Elle est au cœur d'une confusion sur le contrôle de la mairie où elle et Patrick Kafumbi, son titulaire, revendiquent chacun la légitimité à diriger l'institution. Examen d'État 2025, les résultats sont publiés en un temps record. L'invité du journal Steve Diatezoa, président de l'Association nationale de parents d'élèves du Congo à Napeko, salue une avancée technologique majeure au bénéfice des lauréats. Vous l'entendrez sous peu. Bonsoir à tous. Commençons à Goma où une panique s'est emparée des habitants du quartier Mabanga ce mercredi dans la matinée. Pour cause, une opération de bouclage menée par surprise autour de 6h du matin par les éléments du mouvement AFC 123. Près de 60 personnes, généralement des jeunes hommes, ont été prises des forces dans les rues, des avenues et même dans leurs maisons. Conduits au stade de l'unité, quelques-uns ont été relâchés après identification. Cette opération n'est pas la première, s'inquiètent plusieurs acteurs locaux. Les détails avec vous, Blaise Chindani.
Rassemblés en face du stade de l'unité ce matin, quelques dizaines de membres des familles des personnes interpellées dans cette opération de bouclage avaient une expression de tristesse sur leur visage. S'ils observaient avec impuissance la scène, ces membres des familles, pour la plupart des mères ou épouses des personnes interpellées, attendaient que les leurs soient relâchés ou qu'elles soient fixées sur le sort qui leur aurait été réservé. Jusqu'à 11h locales, seule une vingtaine de ces personnes interpellées avaient été relâchées par les militaires du mouvement AFC M23. Ceux-ci auraient été instruits de retourner dans le quartier Mabanga pour assister à un meeting de sensibilisation appelé par l'autorité locale de base. Pour certaines sources proches du mouvement AFC M23, cette opération de bouclage est la réponse à plusieurs alertes d'insécurité impliquant des présumés Wazalendo. La semaine dernière, un collaborateur du dit mouvement rebelle a été tué par des bandits armés un peu plus au nord du quartier Mabanga. Rappelons que ces opérations de bouclage ont déjà été menées plusieurs fois dans la ville de Goma en territoire de Nirangongo ainsi que dans les cités de Sake et de Rubaya en territoire de Masisi. Certains autres acteurs voient plutôt dans ces opérations une stratégie d'enrôlement forcé des jeunes au sein des rangs de l'AFC M23.
Restons au Nord Kivu à Beni cette fois-ci où la société civile locale appelle à une coordination efficace des actions entre les FRDC, l'armée ougandaise, UPDF et les casques bleus de la MONUSCO afin de faire face à la menace persistante des ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cet appel intervient après la recrudescence ces dernières semaines des attaques de ce groupe armé, mettant fin à quelques mois d'accalmie. Pour Richard Kirimba, vice-président de cette structure, une bonne coordination permettra d'obtenir les résultats escomptés et de favoriser l'instauration d'une paix durable. Il s'exprime au micro de Martial Papimoukeba.
En plus de toutes les recommandations que nous avons déjà données en termes de maintenir la pression sur l'ennemi, nous sommes en train d'insister sur la bonne coordination des opérations militaires pour tous les éléments impliqués dans la traque contre les ADF. Et là, nous voyons principalement les FRDC, leurs partenaires de UPDF, mais nous savons qu'il y a aussi des contingents de la MONUSCO en appui au FRDC et à d'autres services de sécurité. En tout cas, nous voulons ce qu'il y ait une bonne coordination pour essayer d'endiguer. Cette guerre ne mérite pas de relâchement. Si on ne coordonne pas bien, alors on sera en train de chasser les ADF d'un coin vers un autre. Et ça, c'est le malheur de la population. La coordination des opérations, nous voudrons qu'elle soit réelle entre les militaires affectés en Ituri et ceux qui sont affectés au Nord Kivu pour que finalement ce sourire qui venait de naître puisse être récupéré et pour que nous puissions nous rassurer des travaux qui nous amènent une paix durable. Parce que finalement, on comprend que c'est aussi ça le souci qui n'a pas fait à ce que l'on y arrive.
En Ituri, la police nationale congolaise a renforcé les dispositifs de sécurité dans la ville de Bunia après la fusillade d'hier soir qui a fait un mort et cinq blessés. Le commandant urbain garantit que la ville est désormais quadrillée pour rassurer la population. De son côté, la population doit faire preuve de vigilance accrue et renforcer sa collaboration avec les services de sécurité afin de prévenir un nouveau drame dans la ville de Bunia. Isaac Remoyope.
La psychose gagne du terrain à Bunia. Des fusillades en une semaine ont fait 5 morts et 16 blessés. Mardi soir, des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur des clients d'un bar dans le quartier Lumumba. Face à cette situation, la police dit avoir pris des mesures strictes. Les patrouilles sont renforcées et les forces de l'ordre ont quadrillé les zones jugées sensibles. Le colonel Abeli Mwangu, commandant urbain de la police, appelle aussi à la vigilance citoyenne.
Les policiers ont quadrillé tout le secteur du quartier Lumumba. Les enquêtes sont en cours et nous courons derrière le malfrat. Voilà pourquoi nous recommandons à la population d'être vigilante en cette période.
Mais ces assurances ne convainquent pas tout le monde. Certains acteurs politiques et de la société civile estiment que les autorités réagissent tardivement. Les députés provinciaux Élie de Bunia, Pascal Dudanga Cavarios, critiquent une approche trop passive.
La meilleure sécurité est celle qui est anticipative. Parce que là, le malfrat est faible. Si une fois on connaît de telle maison d'une façon anticipative, qu'il y a une arme et que les services descendent dans cette maison, c'est facile de récupérer cette arme-là.
La société civile demande également à la justice d'ouvrir rapidement une enquête pour identifier les auteurs de ces fusillades et mettre fin à ce climat d'insécurité qui s'installe dans la ville. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Je l'ai dit dans les titres, la maire adjointe de Lubumbashi, Joyce Tunda, est rappelée à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur près d'une semaine après son retour de la capitale. Ce rappel intervient après une confusion qui a régné hier mardi à la mairie de Lubumbashi où elle et son titulaire Patrick Kafumbi se battent pour le contrôle de la mairie. Le point avec Jean Gandou.
La mairie de Lubumbashi apparaît comme un monstre à double tête. Elle a une autorité de fait et une autre de droit. La maire adjointe, qui, après avoir été réhabilitée par le Conseil d'État, s'est présentée ce mardi à son bureau et son chauffeur a garé les véhicules à l'endroit généralement réservé aux titulaires. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on voit un policier lui ouvrir la portière, elle descend et se laisse acclamer par ses partisans et arpente les marches jusqu'à atteindre son bureau. Là aussi, certains agents sortent et l'ovationnent. Juste après, c'est le maire intérimaire récemment nommé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui se pointe et garde son véhicule à côté et les éléments de la police commis à cet office lui rendent les honneurs. Lui aussi est ovationné par ses sympathisants. Comme pour son adjointe, avant d'atteindre son bureau, il est accueilli par des cris de joie. Plus tard, c'est un télégramme du VPM de l'Intérieur qui tombe et qui demande à la maire adjointe de rejoindre Kinshasa en dehors 48 heures pour consultation. Cette situation divise l'opinion. Pour les uns, la RDC étant un pays de droit, la maire adjointe ayant été réhabilitée par le Conseil d'État doit en principe assumer l'intérim en attendant l'organisation de nouvelles élections locales. L'intérimaire devait, en toute logique, s'abstenir de faire fi de la décision des justices. Pour les autres, la maire adjointe devait attendre la remise et reprise avec son actuel titulaire avant de se comporter comme tel. Encore que les deux sont membres de l'UDPS.
Interpellé brutalement lundi dernier aux abords du cimetière de la Gombe, dans la ville de Kinshasa, la directrice générale du média en ligne events.rdc.com, Glodine Daya, a déjà passé 2 jours en détention. Après une nuit au commissariat provincial de la police de Kinshasa, elle a été transférée au cachot du parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe. L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, OLPA, condamne fermement cette arrestation qu'il qualifie de violation flagrante de la loi régissant le fonctionnement des médias en République démocratique du Congo. L'organisation dénonce également le non-respect des procédures légales en matière d'interpellation, notamment l'absence des notifications officielles préalables et le caractère arbitraire de la détention. Plus de détails avec Blaise Ndongala.
La rédaction de event.rdc.com précise que des confrontations sont prévues ce mercredi entre la journaliste et la partie demanderesse. Elle déplore que l'interpellation de cette journaliste repose uniquement sur la publication, le 31 juillet dernier, d'une enquête réalisée par un cabinet tiers relayé par plusieurs médias panafricains. Des voix s'élèvent, cependant, pour dénoncer une atteinte à la liberté de la presse. Plusieurs organisations de défense des droits des journalistes dénoncent la manière jugée des cavalières dont cette interpellation a été menée. Parmi elles, l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique qui condamne fermement ce qu'il considère comme une violation de la loi régissant le fonctionnement des médias en RDC. Le président de cette structure, Alain Kabongo.
Olpa regrette que la journaliste Glodine Daya ait été arrêtée dans des conditions qui ne respectent pas la loi et espère que tous les droits de la défense seront garantis.
Lors de son audition au commissariat de la police provinciale, Glodine Daya a invoqué l'article 54 de l'ordonnance loi du 23 mars 2023 qui garantit la liberté de la presse en RDC.
En santé, dans la province du Maniema, une délégation mixte du programme national de lutte contre la lèpre et la tuberculose, accompagnée d'un partenaire, séjourne à Kindu depuis hier mardi. À l'issue d'une audience avec le gouverneur, elle a déclaré être allée sensibiliser les autorités à l'importance de mobiliser localement des fonds pour appuyer la lutte contre ces deux maladies. On écoute à ces sujets le docteur Jean-Pierre Malemba, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose, au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes venus essentiellement pour trois choses. La première, c'est que nous avons voulu d'abord appuyer la coordination, qui est elle-même coordination lèpre et tuberculose. Nous venons donner notre appui pour voir comment ça marche ici. En plus, nous sommes venus également pour faire un plaidoyer au niveau de la province. Nous sommes à une période assez difficile. Comme vous l'aviez déjà entendu, les Américains ont réduit leur financement à travers les ONG qu'ils appuyaient. Nous en avons beaucoup qui nous appuyaient aussi, ce qui fait que il y a eu réduction des fonds qui arrivaient pour les activités au niveau de nos programmes. Et c'est pour ça que nous sommes venus en nous disant, profitons de l'occasion comme on est ici, pour non seulement sensibiliser la base sur la lèpre et la tuberculose, mais c'est surtout voir avec les autorités comment on peut mobiliser les fonds localement pour aider dans la lutte contre la tuberculose et la lèpre. Et le troisième objectif de notre mission, c'est on est venu avec le partenaire qui lui appuie la lèpre. Il est venu pour lancer un projet et c'est ce projet-là avec lequel nous sommes venu aussi pour présenter le projet, de façon à ce qu'on sache qu'est-ce qui va être fait dans les jours à venir.
Et puis, clôture ce mercredi à Kikwit de la campagne de chirurgie et de traitement gratuit des malades. Cette action est menée par la clinique mobile de Lodja, composée de médecins spécialistes en chirurgie, gynécologie et ophtalmologie. Cela avec le financement d'Entraide, une ONG suisse. D'après Dr Tony Elongué, ministre provincial de la Santé, pendant une semaine, plusieurs malades de Lodja, d'Idiofa et de Kikwit ont bénéficié des interventions chirurgicales gratuites ainsi que des soins. Dr Tony Elongué a été joint au téléphone par Esther Dalafina.
À Kikwit, par exemple, dans le cadre de la gynécologie obstétrique, on a eu à opérer autour de 20 cas de femmes qui avaient perdu leur sens de vie à cause des maladies gynécologiques invalidantes, comme le prolapsus, comme les fistules vésico-vaginales, comme des cancers. Et donc, on a essayé de les traiter, on a les a opérés, et ces femmes sont complètement dans la grande joie quand elles se sont vite transformées. La même chose dans le cadre de l'ophtalmo, il y a eu des gens qui ne pouvaient plus voir à cause des cataractes, et donc on a eu à opérer plus de 20 cas à cause de cataractes, et puis on a eu à consulter beaucoup de gens. Dans le cadre de la dentisterie, la même chose. Et dans le cadre de la chirurgie, on a opéré beaucoup de cas de prostate, donc de hypertrophie de la prostate chez les hommes. Et donc, c'est vraiment une mission qui a pu permettre à ce que plusieurs personnes soient sauvées. On a redonné la vie à plusieurs personnes. Voilà.
Parlons à présent de ce mal qui gangrène Kinshasa. La population kinoise développe de plus en plus l'habitude de se soulager en pleine rue. Les endroits concernés sont les coins isolés, tout comme les rues fréquentées, les murs de clôture, les rivières, les arrêts de bus et d'autres endroits de la capitale de la République démocratique du Congo sont aussi pris d'assaut, ce qui soulève ainsi des questions des pudeurs, mais aussi des inquiétudes sur l'environnement et sur la santé de la population, sur ces quantités d'urine déversée tous les jours dans la ville. Reportage La Kinzao.
Et Pekisami Kosuba Namur, entendez, défense d'uriner sur les murs. C'est l'inscription que l'on peut lire sur les murs des différentes clôtures dans la capitale congolaise. Il suffit de sillonner Kinshasa, les jours comme les nuits, pour trouver des personnes, des jeunes tout comme des vieux, en train d'uriner au vu et au su de tous, sans pudeur. Comment expliquer ces phénomènes? Ces jeunes racontent.
Il m'arrive d'uriner en pleine rue, souvent, quand je suis loin de la maison et qu'il n'y a pas de toilettes publiques ou des stations-service sur place. Des fois, on nous refuse l'accès aux parcelles voisines.
Pour le professeur Maximilien Zamoko, il s'agit aussi des manques de discipline dans les chefs de la population.
Les gens, quand ils consomment beaucoup d'eau, à l'endroit où il est, il doit faire un effort, attendre d'abord, il se soulage avant de se déplacer.
Docteur Kipasa, expert en santé publique, évoque le méfait de ses habitudes sur la santé.
À Kinshasa, il y a des épisodes de choléra et autres maladies diarrhéiques, souvent aggravées par les déficits de toilettes publiques. Cela entraîne la contamination des eaux après chaque pluie.
Parmi les risques sur l'environnement, l'environnementaliste Céline Sikulisiwa déclare que cette pratique favorise la prolifération des bactéries antibiorésistantes. À part les urines, ces lieux font aussi objet de défécations en plein air.
Actualité internationale. Présidentiel au Cameroun, Maurice Kamto ne pourra pas être candidat. Le Conseil constitutionnel a rejeté hier mardi le recours de Maurice Kamto, le considérant comme non fondé. Le candidat du Manidem et principal opposant au président Paul Biya ne pourra donc pas prendre part à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025.
L'invité.
Le ministère de l'Éducation nationale a publié les résultats de l'examen d'État 2025, moins d'une semaine après la tenue de cette épreuve nationale certificative. Invité de Radio Kapi, le président de l'Association nationale des parents d'élèves du Congo, ANAPECO, Steve Diatezoa, salue ces délais records qu'il considère comme une avancée technologique significative dans le système éducatif congolais. Selon lui, cette publication rapide permet aux lauréats de procéder sans tarder à leur inscription dans les universités et instituts supérieurs, tant au niveau national qu'à l'étranger. Steve Diatezoa s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Steve Diatezoa.
Bonjour Radio Kapi.
Les résultats de l'examen d'État édition 2025, publié moins d'une semaine après l'organisation de cette épreuve certificative, quelle analyse faites-vous de cette publication?
Pour nous, nous avons pris acte parce que nous savons que le premier jour du lancement de l'épreuve, la ministre d'État avait promis qu'après trois jours après la fin de l'épreuve, elle serait en mesure de publier les résultats. Et c'est ce que nous avons constaté, donc nous n'étions pas étonnés du tout.
Quel est selon vous le délai requis pour rendre public les résultats de l'examen d'une telle envergure?
Ce sont les services techniques, donc l'inspection générale seule, qui peut dire avec certitude quel est le délai qu'il leur faut pour traiter et publier les résultats.
Comment jugez-vous la correction à l'aide de l'intelligence artificielle qui fait débat à travers les pays?
Je suis en train de suivre les différents débats dans les réseaux sociaux qui sont totalement emballés. C'est normal parce que chaque innovation apporte un lot de questionnements. Mais pour moi, je trouve que la publication a été faite de façon hâtive. Moi, j'accepte les résultats tels qu'ils sont apparus parce que c'était déjà annoncé et elle a tenu parole. J'espère que ce service sont suffisamment outillés pour impacter cette innovation.
Quels sont les avantages, d'une publication faite de manière hâtive?
Les avantages de cette publication, c'est qu'il y a moins de stress. Le temps d'attente est réduit et les élèves, les parents sont fixés une fois pour toutes et on passe à autre chose, notamment pour obtenir l'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, ou bien recommencer les démarches pour une réinscription là où l'enfant n'a pas réussi, ou peut-être changer d'école Donc c'est ça l'avantage. Avant la rentrée scolaire, tout le monde est fixé.
En parlant des avantages, est-ce qu'il y a, y a-t-il aussi des inconvénients?
Bon, les inconvénients sont dans la tête de ceux qui pensent qu'il ne fallait pas publier rapidement les résultats. Mais pour moi, je ne vois pas un désavantage qui porterait préjudice aux élèves et aux parents.
Quel est le message de l'ANAPECO, Association nationale des parents d'élèves du Congo, en cette période de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2025?
Aux parents et aux élèves, je dis que nous sommes en train de marcher avec la révolution technologique et la RDC ne doit pas rester en marge. Maintenant, il y a un problème pour nous parents et les élèves, c'est de savoir comment entrer en possession des résultats qui sont publiés, parce qu'avant, ça s'est publié dans les réseaux de télécommunications. Maintenant, nous sommes un peu désemparés. Nous ne savons pas comment accéder à l'information pour avoir les résultats. Message aux lauréats, nous continuons à marteler sur le fait que ils doivent montrer qu'ils sont devenus grands et non faire des folies qui amènent même à la mort, parce qu'ils sont sur des motos, dans des voitures, ils font des accélérations et ils font du n'importe quoi. Ils se croient maintenant autorisés à aller vers l'interdit.
Monsieur Steve Diatezoa, nous vous disons merci.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Polly Mouzalia et Alain Irung. Alain Goy, la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.